Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Nous sommes le 18 septembre et à Canalem, c'est Sans détour qu'on vous accueille. On va parler sans détour de l'accessibilité, ou plutôt du manque d'accessibilité dans le REM. REM a fait beaucoup parler de lui, mais l'accessibilité, pas assez. On en a un mot à dire avec Mme Francine Leduc, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous notre patron, Philippe Lapointe. On fera une petite revue de ce qui se passe à Canalem cette saison, plein de nouveautés. Ce sera une bonne façon pour nous de préparer notre écoute pour les prochaines semaines, les prochains mois. Elsa Lavigne, directrice générale d'Altergo, va nous parler d'une toute nouvelle publicité qui est en onde depuis à peine une semaine, qui parle du collectif Accessibilité universelle, et c'est pour conscientiser la population sur la nécessité de rendre tous les lieux accessibles. Nous aurons, en terminant, à la dernière demi-heure, Elisa Pellerin, avec qui on fera la revue de presse. Mais pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir M. Philippe Ducharme, qui nous parle des dernières avancées dans le domaine de la science et de la recherche. Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien, François, et toi?
Ça va bien, merci. Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique. Et Philippe, c'est comme si à chaque chronique, tu nous apportais des bonnes nouvelles.
Hein? Tant mieux, je suis content de savoir ça.
Oui, ouais, tout à fait. À chaque fois, ben, c'est sûr qu'entre la recherche et les conclusions des chercheurs, quand ils font des expériences, ainsi de suite, parfois sur des petits animaux, ou des fois c'est des modèles théoriques, on est loin de l'application avec les humains, mais ça donne espoir que dans les années qui s'en viennent, il y aura des choses qui vont nous rendre la vie plus facile.
Absolument.
Exact. Alors, aujourd'hui, on parle de la cornée.
Oui, tout à fait. Alors, je vous amène dans une certaine révolution technologique en termes de réparation de la cornée. Donc, pour commencer, la cornée, bien, c'est la première lentille située devant l'œil. Hein. Son rôle, c'est déjà de faire changer de direction les rayons lumineux.
D'accord.
Pour que ceux-ci puissent se diriger convenablement jusqu'au fond de l'œil.
Ça, c'est la partie qui est transparente et bombée. Qu'on
Absolument.
Peut observer si on regarde un œil de près, de côté.
Oui.
Hein? C'est comme une sorte de petit dôme transparent.
Tout à fait, exactement, comme un peu un verre de montre, en quelque sorte.
Ouais.
Et puis, ben, évidemment, cette lentille-là aussi protège l'œil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut être endommagée de différentes façons, hein, par des éraflures, des infections. Il y a aussi des maladies propres à la cornée. Dans tous les cas, ce qui est malheureux, c'est que la cornée ne va pas se régénérer complètement elle-même.
Okay.
C'est-à-dire qu'elle va se réparer, mais au mieux en laissant des petites cicatrices au passage, des cicatrices qui vont malheureusement rendre l'œil un peu plus opaque.
Oui,
donc
parce que à ce moment-là, le rôle de la cornée de concentrer la lumière vers le fond de l'œil, ben là, c'est sûr que s'il y a des interférences, parce qu'il y a des tissus cicatriciels, là, micro,
c'est ça.
Ça vient
nuire un peu à la qualité de la vision. Puis là, ben, évidemment, pour réparer une cornée, ben, il y a différentes possibilités quand même. On peut mettre des gouttes, on peut avoir la greffe de cornée carrément. Là,
c'est
des possibilités. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce que des chercheurs à l'Université d'Ottawa ont été capables de mettre au point. C'est-à-dire que c'est un hydrogène qu'on injecte dans l'œil. Je vais l'expliquer dans quelques instants. Donc, on injecte ça dans l'œil. Puis quand on soumet ça à une lumière bleue, ben ça va en quelque sorte amener une certaine réparation de l'œil, une amélioration de la réparation au niveau de la cornée. L'hydrogel, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est un mélange de petites protéines, mais aussi de molécules un peu plus grosses qu'on appelle des glycosaminoglycanes.
Ah, ben oui, les glycosaminoglycanes, on en a chaque semaine dans la commande épicerie.
Oui, oui. Donc, c'est un mot qui est payant, Scrabble. Si vous le placez, ça fait bien
Oh oui, là, ça doit être un 300 points, ça, d'un coup.
Ah, quand même, pas mal, disons.
Ouais.
Mais ce qu'on peut retenir de ce mot-là, c'est que finalement, c'est une molécule qui est dans la famille des sucres. Puis ça, ça veut dire aussi que c'est une molécule qui peut beaucoup retenir l'eau. Donc, quand on en a, ben, ça forme quelque chose qui est plutôt visqueux, de l'apparence d'un gel. Donc, c'est pour ça qu'on dit hydrogel. D'accord. Hydro pour eau, puis gel pour la
Mais
présence
de... qu'est-ce que la lumière... Tu mentionnais que c'était avec de la lumière bleue.
Oui. Alors, on y arrive. Donc, quand on injecte ça, bon, ça a été fait sur les rats, il faut le dire, mais une fois que c'est injecté dans l'œil, la solution va venir combler les cavités, les marques laissées par les érafleurs, par exemple, ou les défauts de géométrie. Puis la lumière bleue, elle, ben, lorsqu'on la met pendant quelques minutes, ben, ça va activer ce gel-là. Quand on dit activer, c'est que ça va lui permettre de durcir. Un peu comme lorsqu'on va chez le dentiste, là, certains ont peut-être remarqué ça, là, dans certaines interventions pour réparer les dents ou mettre un vernis, par exemple, sur les dents, ben, on met une petite lumière comme ça.
Oui, pendant quelques secondes à peine, oui.
Exactement, c'est ça. Donc ici, c'est qu'on active le gel. Ce gel-là va épaissir, mais va venir, dans le fond, corriger les défauts de la rétine.
Ça va donc combler les petits interstices créés par
Exactement.
Ça lisse la surface.
On peut dire ça comme ça, effectivement. C'est un matériau qui est biocompatible, qui n'est pas toxique, mais surtout, c'est un matériau qui a les mêmes propriétés optique, donc la même manière de se comporter avec la lumière que le ferait notre rétine. Donc, c'est très similaire entre les deux.
Donc, évidemment, il ne faut pas que ça déforme la captation de la lumière par l'œil, parce que sinon, à quoi bon?
On veut pas un matériau qui, finalement, dévie ça de manière non souhaitée. Donc, c'est quand même ça qui est très intéressant, c'est qu'on a ici donc une matière, un biomatériau, qui est très prometteur. Pour l'instant, on l'a testé chez les rats, mais on comprend que la prochaine étape, c'est probablement d'essayer ça
chez les humains.
Les humains, exactement. Mmh. Et si ça peut bien fonctionner, ben, on a peut-être là ici vraiment quelque chose de révolutionnaire. Parce qu'il faut le dire en terminant, il y a quand même un nombre assez impressionnant de gens qui présentement sont en attente de greffe de cornée. Oui. Donc, on a peut-être une alternative ici pour ces gens.
Parce que, comme on le disait au tout début, les incidents qui abîment la cornée, hein, ça veut dire, mettons, ne pas porter de lunettes protectrices quand on fait un travail, puis on reçoit juste une petite graine de plâtre ou un petit morceau de bois qui revole quand on fait du bricolage, ou peut être en train de jouer, mettons, au basket, parce que ça arrive au basket, ça, quelqu'un... La main passe juste à côté de notre œil, puis juste avec l'ongle, quelqu'un peut égratigner notre cornée. Là,
Ça prend pas grand-chose, puis il faut en prendre soin. Fait que là, quelque chose qui peut, une solution qui
à suivre.
À suivre, absolument.
Oh, c'est bon. Merci. Voilà déjà une bonne nouvelle.
Ben oui, c'est ça. C'en est une.
Alzheimer.
Pardon?
On parle d'Alzheimer.
Oui. On enchaîne avec l'Alzheimer. Donc, on le sait bien, l'Alzheimer, une maladie neurodégénérative, une maladie qui, malheureusement, entraîne la perte de cellules dans le cerveau, hein, les cellules cérébrales. Ça vient avec des pertes de mémoire, des pertes de capacités cognitives aussi, des facultés. Puis à ce jour, il n'y a pas encore de médicaments qui peuvent guérir de ça. On le sait bien, là, c'est ça. On peut atténuer les symptômes, mais on n'arrive pas évidemment à contrebalancer la maladie. Dans ce contexte-là, moi, je vous parle donc de résultats de recherche qui ont été faits par des chercheurs à l'Université Laval, puis des chercheurs aussi en Alberta à l'Université de Lethbridge. Donc, des travaux qui ont été supervisés par un chercheur à Laval, le docteur Yves de Koninck.
La famille de Koninck et l'Université Laval sont intimement reliés, là. C'est... la famille de Koninck, là, ça remonte à quelques générations.
C'est intéressant d'apprendre.
Tout à fait, Philippe, si tu vas à l'Université Laval, là, à part du rouge et or puis du football, famille de Koninck, là, c'est quelque chose. Il y a même des pavillons qui s'appellent de Koninck.
Ah, c'est intéressant. Ben, en tout cas, donc, cette équipe-là, sous la supervision de docteur de Koninck, a mis au point une molécule qui probablement pourrait renverser certains symptômes qu'on associe à l'Alzheimer. Oh. Mais pour en arriver là, ben, ils se sont intéressés à un canal très particulier à la surface des neurones, un canal qui s'appelle le KCC2. Bon, pour être un petit peu plus clair là-dessus, là, on va comparer ça à un poste frontalier, hein, un poste de douane qui sépare finalement quoi deux pays, hein, est situé à la frontière entre deux pays. Ben ici, le canal, il est situé dans la membrane du neurone, pardon, puis il sépare l'intérieur de l'extérieur du neurone.
Et
ce canal-là permet de faire passer des ions de chlore et des ions de potassium de l'intérieur vers l'extérieur de la, du neurone.
Et c'est le passage de ces ions qui pénètrent dans une neurone, enfin, ils proviennent d'une autre neurone puis ils pénètrent dans la suivante, qui permet une interconnectivité, puis à ce moment-là, une activité cérébrale.
En quelque sorte, oui, effectivement. Donc, évidemment, ce canal-là est donc très important pour le fonctionnement adéquat du neurone. Puis, ben, ce qui arrive, c'est que lorsque le canal est moins actif, ben, le neurone devient surexcité. Donc, il n'y a plus de pédale de frein. Il n'est plus capable de s'arrêter d'une certaine manière. Puis ça, à la longue, ben, ça peut entraîner une perte cognitive. Puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a des études qui ont été faites au niveau des cerveaux de patients décédés de l'Alzheimer. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que ce canal-là n'est pas très présent. Il n'y en a pas beaucoup. Ah. Il y en a peu. Donc, il n'en fallait pas plus pour les chercheurs de se dire, bon, OK, on peut-tu jouer sur ce canal-là?
Comment est-ce qu'on peut réparer ou rendre le poste frontière de la neurone, le canal KCC2 plus efficace?
C'est ça. Donc, ils ont mis au point une molécule. Et cette molécule-là, lorsqu'on l'injecte chez des souris dont le canal fonctionne moins bien, ben on va entre autres remarquer au niveau de leur comportement. Donc, ils ont des comportements un peu plus normaux, un peu comportement social plus normal. Mais il y a aussi une amélioration de leur mémoire spatiale. Donc, c'est des constats qui nous rapprochent un peu de ce qu'on peut constater chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer. C'est une molécule, finalement, qui peut peut-être aussi, en quelque sorte, contrer l'hyperactivité des neurones.
D'accord. Parce que si le canal, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si le canal KCC2 fonctionne peu ou mal, oui, la neurone ne s'endort pas. Au contraire, là, elle devient hyperactive. Puis là, ça peut créer des problèmes comportementaux.
Ça peut amener aussi à une
dégénérescence.
Une dégénérescence, en quelque sorte. Il ne faut pas quand même conclure présentement le lien. Il n'y a pas un lien direct entre il y a peu de canal et le développement de la maladie de l'Alzheimer. C'est pas exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut plutôt retenir que lorsque ce canal-là fonctionne moins bien, ben, ça crée un déséquilibre au niveau des ions de chlore dans le neurone par rapport à l'extérieur, puis que comme tu l'as dit, hein, ça entraîne une hyperactivité des neurones, puis ça va peut-être les amener aussi à mourir. Mais ça demeure quand même intéressant, parce que ça nous montre ici peut-être une manière intéressante d'agir sur ce type de canal-là, puis que peut-être qu'en quelque part aussi, ça va peut-être avoir un certain lien éventuellement avec la possibilité de renverser certains symptômes qu'on associe à l'Alzheimer.
Bravo.
C'est comme ça pour l'instant qu'on peut comprendre.
Mais faut comprendre qu'on est encore un peu loin, parce que malheureusement, la molécule activatrice de canal, là, elle n'est pas fonctionnelle chez l'humain. Ça va bien pour les souris, tant mieux,
mais
il faut trouver une solution qui serait adaptée aux humains.
On pense bien que les prochaines étapes seront peut-être donc de mettre au point une molécule qui est compatible à l'humain, qui peut nous amener à ce genre de vérification-là au niveau des humains. Est-ce que ça marche ou pas d'agir sur le canal comme ça?
Parlant d'adaptation, ça faisait peut-être un peu étiré là, comme pont entre deux sujets. La compagnie Sony vient d'adapter ses jeux vidéo.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, ils ont annoncé ça en janvier dernier. Là. C'est-à-dire, ils ont mis au point une nouvelle manette. Une manette de jeu qui est dite plus accessible. Donc, une manette qui, finalement, peut être personnalisée pour les personnes qui souffrent d'un handicap. On pense souvent au handicap physique, bien entendu, le handicap moteur, mais probablement aussi le handicap visuel. Une manette qui se présente donc avec, un joystick, c'est-à-dire un manche.
Le manche à balai, là.
Manche à balai. Plusieurs boutons, des boutons qu'on peut personnaliser. Ça, c'est ce qui est intéressant. On peut mettre des fonctions particulières, comme on peut en retirer, donc pour éviter de toucher à des boutons puis d'activer des commandes non désirées. Justement.
D'accord. Oui, parce que des fois, quelqu'un qui a des problèmes de préhension, des problèmes aussi de sensibilité de la main, ou ainsi de suite, peut-être que c'est pas toute la manette qui peut être manipulée. De la même manière que c'était prévu à l'origine. Alors là, ça permet de faire des manettes personnalisées à sa façon de s'en servir.
Tout à fait. un projet qui a pris 5 ans quand même à développer, puis qui a été aussi testé, validé avec des personnes qui vivent des situations de handicap. Fait que c'est quand même intéressant de voir que les compagnies se sensibilisent de plus en plus à la notion d'accessibilité puis d'inclusivité. Puis ça se fait ici par le biais des jeux, justement. Tu sais. Fait que, oui. C'est intéressant
bon,
de
ah, ça. Ça, c'est quelque chose peut-être à retenir pour mettre sous l'arbre de Noël.
Ah, hein? Pourquoi pas? Ça va être en décembre, autour de 120 $.
Ben oui, c'est ça. Ça va venir assez rapidement sur le marché, j'en suis sûr. Ben, oui, merci beaucoup, oui. Philippe, d'avoir fait ça. Puis encore des bonnes nouvelles, hein? Trois bonnes nouvelles.
Je suis bien content.
Voilà. Vulgarisateur scientifique et porteur de bonnes nouvelles. Ben, à la prochaine.
Très bien. Parfait, salut.
Merci. C'était Ike Québec. Oui, son nom, c'est Québec, comme le carnaval. Ike Québec était un saxophoniste américain décédé au début des années 60 prématurément. Et la pièce s'appelait Nature Boy. Mais si on écoute, ça ressemble beaucoup aux Feuilles mortes, hein, le classique inaltérable de Joseph Cosma, chanté par Yves Montand et parfois par Mathieu Tessier. Peut-être s'agit-il d'un hommage. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle pièce. On revient chez nous, puis on revient à un sujet qui est plus dur. On a le plaisir d'avoir à notre compagnie Mme Francine Leduc, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec, RAPLIC. Bonjour, Mme Leduc.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va très bien, je vous remercie. Le REM a fait beaucoup de bruit dans les médias et parfois dans Griffintown, a fait beaucoup de bruit quand il a commencé à circuler au mois d'août.
Oui.
Puis il y a vraiment eu beaucoup de médiatisation, bonne, mauvaise, à ce sujet.
En effet.
Mais il y a comme tout un aspect de l'opération de transporter les humains à travers la ville qui semble être tombé à côté.
Oui. Ce qui s'est passé, c'est que, nous sommes un organisme qui aidons surtout les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Et également pour toutes sortes de handicaps, dont les personnes aveugles ou à basse vision. Personnellement, moi et une personne aveugle étions sur le comité.
D'accord.
De, comment on pourrait vous dire ça, de consultation pour expliquer les besoins, nos besoins, en fait. Oui.
Ça, c'est un comité qui était au moment de la conception du REM.
Exactement, exactement. Et plusieurs de nos recommandations n'ont pas été suivies. Et il y avait aussi d'autres organismes qui participaient. Donc, nous n'étions pas les seuls à demander certaines choses. Ça n'a pas été suivi pour des raisons administratives ou peu importe. Donc, quand nous sommes allés, parce que nous avons été invités personnellement le premier matin, lorsque M. Legault était là, M. Trudeau était là, nous étions invités comme personnes spéciales, je pourrais vous dire
oui,
ça.
Oui, d'accord.
À l'inauguration du REM, et nous avons noté que certains points n'étaient pas conformes à nos besoins spécifiques.
Et alors, ça devait être un peu gênant pour eux de s'apercevoir qu'il y a des personnes à mobilité réduite qui sont invitées, ou handicapées visuelles, qui sont invitées à participer au lancement tambour et trompette du REM, puis que finalement, l'accessibilité n'y est pas. C'est un peu gênant.
Bien, c'est un peu gênant parce qu'on a communiqué avec la personne en charge et on lui a mentionné qu'il y avait des lacunes encore. Et les lacunes, ben, ils attendaient pour certains équipements.
D'accord.
Pour remédier à ces problèmes-là. Mais comment ça se fait que je n'étais pas là lors du lancement? Ça, c'est une autre chose. Et il y a comment je pourrais vous dire? Il y a comme le stationnement à l'extérieur dont les dimensions sont beaucoup trop. C'est trop étroit.
Ah, vous parlez du stationnement réservé pour les personnes en situation de handicap, là.
Exactement.
Et il faut que ce soit large, parce que si on a à sortir son fauteuil du coffre de l'auto, ou on a sur le côté, mettons une fourgonnette, là, qui a une porte de côté avec une plateforme, ou ainsi de suite.
Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment très, très étroit. Alors, on n'a pas encore eu de réponse.
Ça, c'est pas un manque d'équipement, ça. C'est comme un mauvais dessin, point à la ligne.
Point à la ligne. Alors, on ne comprend pas que ça, on ne sait même pas d'où ils ont pris ces dimensions-là. Alors, on attend toujours une réponse à ce niveau-là aussi. Il y a plusieurs petites choses dont on attend des réponses, dont les distributrices de titres, là, qui sont trop hautes pour une personne qui est en fauteuil manuel ou motorisé. On n'est pas capable d'accéder pour entrer la carte de crédit ou une carte
obtenir
des choses comme ça. On nous a dit qu'on aurait bientôt des nouvelles distributrices, mais bon, en tout cas, moi, je ne sais pas quand on va les avoir. Il y a eu aussi des lacunes dans les indications pour les gens.
Oui, oui, ça, on en a parlé, là. La signalisation était vraiment pas était pas évidente les premiers jours.
Ouais. Le premier jour, il n'y avait absolument rien. C'était vraiment là allez-y selon votre bon vouloir.
Suivez la foule.
en fait, la foule, vous savez, on était deux personnes en fauteuil motorisé cette journée-là. Et si on regarde tout ce qui s'est passé à la télé, ils nous mettaient toujours de côté. On n'était jamais vus dans les médias.
Ah, tiens. Oui.
Hein? Bon. Ça arrive souvent. On ne montre jamais les personnes à mobilité réduite. C'est absolument incroyable. C'est comme si on ne faisait pas partie de la population. C'est comme si on n'existait pas.
Oui, tout à fait. Ben, puis il y a des choses aussi, parce qu'il y a eu des pannes de service.
Oui.
Bon, ça, on peut comprendre que dans les premières semaines, il peut y avoir du rodage. Mais
les
navettes, pour pallier aux pannes, elles-mêmes n'étaient pas adaptées.
Non plus. Parce que, vous savez, ça prend un véhicule adapté pour recevoir les gens.
Oui.
Ça prend ce qu'on appelle un véhicule avec une rampe accessible.
Oui, tout à fait. Ou une plateforme, quelque chose.
Une plateforme élévatrice, mais habituellement, ça va être un taxi avec une rampe.
Oui.
Et ça non plus, c'était pas planifié. c'était inadéquat, en fait. Et on disait que ça pouvait prendre 20 minutes à peu près, mais bon, finalement, c'était vraiment mal planifié, ça aussi.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de revisiter le REM depuis cette inauguration au cours des dernières semaines, ou est-ce que vous avez eu des échos? Est-ce que depuis ces bavures-là, est-ce qu'il y a eu des améliorations, quelques points qui au moins ont été corrigés, ou on est encore à la même case?
Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion, mais la personne qui m'accompagnait à l'inauguration, elle a pris 4 autres fois et n'a pas vu de changement significatif.
D'accord. Parce qu'il y a eu un article, vous avez élevé la voix à juste
oui.
titre.
Oui.
Il y avait dans le Journal de Montréal un article assez immédiat qui frappait là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un retour d'ascenseur, sans faire de blague, parce que justement, il en manque des ascenseurs, un retour d'ascenseur du REM, est-ce qu'ils vous ont contacté? Est-ce qu'ils ont vu à faire le lien avec vous à nouveau?
Pas encore. On attend toujours une rencontre avec les responsables. On est censé avoir une rencontre. C'était planifié, cette rencontre-là. Mais je pense qu'ils attendent d'avoir plus d'équipements conformes, selon ce qu'ils nous disent. Mais vous avez aussi, nous, à la dernière rencontre qu'on avait dit, bon, ben ces choses-là n'ont pas été prises en considération. Comment ça se fait? Parce que les futurs wagons, les futures stations qui vont être
ajoutées,
est-ce que ça va être pris en considération, nos recommandations? On nous a dit non, parce que ça va coûter trop cher. Ça va être plus facile de réparer que de faire de nouveaux plans.
Bon.
Écoutez bien.
Pourtant, ils pouvaient faire les bons plans la première fois, là.
Non, jamais.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un comité d'usagers au REM? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'auto-évaluation auquel des personnes en situation d'handicap participent?
En fait, il y a un comité des usagers à la STM.
D'accord. OK, donc c'est par là que ça se passe. Ben, je vais vous dire, vous parlez de silence radio du REM. Pour terminer, Mme Leduc, ici à Canalem, on a essayé à maintes reprises, par toutes sortes de manières, de rejoindre les gens du REM pour avoir leurs réponses en vue de notre discussion que nous avons, vous et moi, aujourd'hui.
Oui.
Alors, ça fait 3 semaines qu'on court après eux pour leur demander est-ce que quelqu'un du REM peut venir parler avec Mme Leduc, qu'on ait un échange. On n'a eu aucun retour d'appel, de courriel ou quoi que ce soit, aucune nouvelle d'eux. Ils nous ont tourné le dos, semble-t-il, ils ont d'autres choses à faire. Ben, merci, Mme Leduc. Je pense qu'il va falloir monter aux barricades.
Écoutez, si j'ai des nouvelles d'eux, je recommunique avec vous.
Ça va me faire plaisir.
Au revoir.
Excellent, merci.
D'accord, merci.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour après la pause, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Philippe Lapointe. Philippe est le directeur d'antenne à Canal M. Hein? C'est pas peu.
Merci François. Je suis très content d'être là.
Ben, ça me fait plaisir. Et c'est une nouvelle saison, hein, on peut dire, qui commence à Canal M. On lance cette saison avec certaines nouveautés, des émissions qui ciblent notre public, notre mission.
Absolument. Et on a une très belle programmation. Et je suis très, 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 très content. Puis je rappelle quand même la mission, là. Canal M, on signe, nous, Canal M, la voie de l'inclusion.
Ben,
c'est ça qu'on fait. On fait de l'inclusion. Alors, l'inclusion, d'abord, des personnes non-voyantes, les personnes en situation de handicap, puis ensuite, celles issues de la diversité, puis les gens qui sont dans les groupes exclus de la société.
Parce
les gens qui n'ont pas voix au chapitre.
Parce qu'il y a beaucoup de combats en commun. Hein? Les personnes handicapées visuelles ont affaire à un monde qui n'est pas toujours adapté, puis à beaucoup de préjugés. Puis là, ben, si on élargit ça, il y a beaucoup d'autres groupes dans la population qui ont...
Mais comme tu m'as déjà expliqué, les marginalisés, démarginalisés. Parmi les marginalisés, c'est les personnes handicapées. Puis il y a, c'est un mot à la mode, la transversalité, ou je ne sais pas comment le dire.
Ça veut dire que quelqu'un peut être l'objet de plusieurs discriminations à la fois.
Absolument. Alors ça, les gens en situation de handicap sont, bref, c'est, c'est, On n'en parle pas beaucoup, puis c'est des exclus. On essaie de leur donner la parole le plus possible. Et puis, évidemment, là, je commence par te féliciter, comme on disait dans le temps. Félicitations pour votre beau programme, mais c'est vrai.
Programme. Ben,
c'est
merci tout, beaucoup. C'est vraiment un peu bon votre bébé, ça, alors on va arrêter ici parce que on va parler des vraies affaires. C'est quoi les nouveautés? Merci.
On va arrêter
merci,
de se féliciter, mais bravo pour vrai. C'est vraiment
merci,
une bonne
c'est
émission.
Gentil.
Ben, il y a plusieurs nouveautés. Parmi les. Une des nouveautés dont je suis assez content, c'est une émission qui est des. C'est un balado, en fait, qu'on a décidé de diffuser, qui est produit par le mouvement Handicap Québec par l'animateur Richard Guilmette.
Oui.
Et Richard, c'est un animateur qui est très engagé. Donc,
ça fait longtemps qu'il fait parler de lui, Richard.
Il fait parler de lui parce que c'est un gars qui a du front autour de la tête, comme on dit en bon québécois. Et son émission est très engagée, puis c'est... Moi, ça, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai écouté les 10 épisodes déjà. J'ai trouvé ça passionnant, donc je suis très content que ce soit là. Une autre émission qui est déjà enregistrée, parce que c'est 5 épisodes seulement, c'est une courte série, c'est avec Camille Chai. Ça s'appelle « Une famille autour du monde ». C'est son histoire et l'histoire de sa famille. Elle, son papa est d'origine cambodgienne, sa
exact.
Mère est d'origine québécoise. Puis Camille, qui anime ici aussi l'émission Les Passions de Camille, bien Camille est née avec un handicap assez sérieux, ce qui ne l'a pas empêché de devenir une championne olympique d'escrime.
Tout à fait. Puis il ne l'a pas empêché de faire grand-chose dans la vie.
Non, non. Et puis j'ai écouté ça en régie, une partie de l'émission en régie avec Mathieu qui est derrière la vitre présentement. Là. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça tellement émouvant et tellement beau parce que c'est des. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui est difficile d'être avec un handicap comme ça. Puis de résumer sa vie en disant je suis une personne chanceuse et qui a réussi vraiment à faire. J'admire beaucoup cette jeune femme-là, moi, et toute sa famille. C'est une très, très belle émission. Je suis très content. Puis ça va être en vidéo aussi sur notre chaîne YouTube.
OK. Alors, tout ça, le balado, la vidéo, tout ça peut se retrouver sur notre site.
Oui, sur notre site. Oui, absolument. C'est la meilleure façon. Mais on a une chaîne YouTube aussi qu'on peut trouver facilement.
Il y a un sujet dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est l'itinérance.
Oui, et je suis très content que France Labelle, qui est la directrice et fondatrice, directrice du Refuge des jeunes, ait accepté d'animer cette émission-là sur l'itinérance, qui s'appelait Regard sur l'itinérance. Ce que France veut faire, c'est... Là, ça a l'air tellement élémentaire, ce que je veux dire, puis on ne devrait même pas avoir à dire ça, mais c'est montrer que les itinérants, c'est aussi des êtres humains.
Oui.
On passe à côté dans
la rue. C'est pas du mobilier urbain. Là.
Non, c'est pas du mobilier urbain. Quand des gens disent que ça dérange les gens de voir des itinérants, mais il faut juste se rappeler que c'est des humains qui sont les personnes itinérantes, puis des gens qui ont été frappés par toutes sortes de malchance, puis de malheur, puis de... Il y a des mythes autour de ça. Tu sais, l'itinérant qui ne veut pas travailler, c'est un mythe. Puis France, c'est une femme que je connais bien, puis qui est dans le monde réel. Tu sais, comment se comporter avec une personne itinérante?
Oui.
Est-ce qu'il faut donner de l'argent ou il ne faut pas donner de l'argent? Comment on agit, comment on fait que... Et puis c'est un problème qui est...
Il y a plusieurs facettes aussi, parce que dans ce domaine-là, dans l'itinérance, tous les itinérants ont chacun, ou itinéranteux, ont chacun, chacune leur histoire. On ne peut pas coller une solution unique à un problème aussi large.
Non, c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est que les gens cherchent des solutions simples à des problèmes complexes. Ça s'appelle la démagogie, puis ça ne marche pas dans la réalité. C'est des réalités complexes. Mais
donc,
là, on a une animatrice qui vit ça dans la réalité réelle, dans le monde réel depuis beaucoup d'années, puis qui j'ai bien hâte que ça commence dans 3 semaines à peu près. Là.
Terre des jeunes, on va parler à un autre aspect de la vie. Là. Ça aussi, c'est Anaïs Sabourin, ça c'est une jeune.
Ça c'est une jeune, puis elle est encore étudiante au cégep de Jonquière à l'ATM, qui est l'école des communications du cégep de Jonquière, qui a une très bonne réputation. Et moi, je cherchais des stagiaires cet été, puis le chef du programme m'a dit « Ah, Anaïs, c'est une star, cette fille-là a tellement de talent. » Puis bon, Anaïs est en fauteuil roulant, puis elle a d'ailleurs un beau chien qui s'appelle Max, puis elle a passé l'été avec nous, puis on a fait connaissance, puis on a découvert une fille qui a tellement de talent, malgré son très jeune âge, elle n'a même pas 20 ans, si je ne me trompe pas. Mais donc, c'est la parole aux jeunes, faite à partir du cégep de
Jonquière.
Du cégep de Jonquière. Puis, tu sais, fait que c'est une gang de jeunes ensemble qui vont se faire du fun, puis qui vont nous montrer comment ça. C'est quoi les préoccupations des jeunes. Puis, ils sont pas beaucoup à la radio, hein. C'est pas des, on les entend pas beaucoup.
Ben, on pense s'adresser à eux en faisant jouer de la musique en boîte,
oui.
Mais on leur pose pas de questions beaucoup.
Non, alors, ils vont avoir la parole.
Alors, ça, c'est...
C'est un beau projet. Puis un autre projet qui est nouveau, qui est aussi une courte série, qui s'appelle Inclusion Inc., qui est une série qui va être animée par Chantal Doré sur l'inclusion en entreprise. C'est dans le fond, Chantal fait ça pas mal dans la vie, d'après ce que je comprends.
Oui, tout à fait. On a eu le plaisir de lui parler ici, à Sans détour, à quelques reprises.
Ben, tu vois, c'est intéressant. Donc, elle va vraiment nous raconter comment, pour réussir l'inclusion en entreprise, mais il faut que l'entreprise prépare le terrain,
le veuille
pour vrai.
Oui.
Hein? Pas seulement dans ses papiers.
Mais ce qui est formidable dans l'inclusion en entreprise, c'est que après les efforts initiaux pour voir à ce que ça se passe bien, les entrepreneurs n'ont que de bonnes choses à dire sur le fait d'avoir engagé des personnes qui peut-être ont des profils atypiques. Et la loyauté, l'assiduité, les efforts consentis des personnes en situation de handicap quand ils se retrouvent en entreprise et l'effet que ça a aussi sur les autres employés au sein du travail, c'est formidable. Je n'ai jamais entendu parler un entrepreneur qui disait « je regrette d'avoir intégré dans mon entreprise ». C'est le contraire. Alors qu'il y a un mythe comme quoi « ah, ça va être un paquet de troubles, ce ne sera pas facile, ces employés-là ne sont jamais contents, ils ne sont pas productifs », c'est faux. Tout ça est faux.
En fait, c'est le contraire qui est vrai. Puis moi, je peux te le dire par expérience, parce que j'ai quand même une certaine expérience dans cet environnement-là. Puis je te dirais, on l'a connu chez AMI Télé, chez AMI TV à Toronto. Ici, tu sais, les personnes, effectivement, en situation de handicap, c'est extraordinaire quand tu peux le faire. Il faut le faire. Il faut le faire.
Exact. Alors ça, ce sont des nouveautés, tout ça.
Il y a des omissions classiques qui reviennent, de nos grands classiques, dont Sans détour, dont j'ai parlé tantôt rapidement. Mission Vision avec Pierre Brisebois, qui est vraiment sur le monde de la malvoyance. Là,
puis on parle de maladie, puis on est pointu, là.
On est pointu. C'est beaucoup sur la science de la chose, là. Puis, évidemment, les émissions de Clotilde, là, sur la lecture, là, puis des livres plein les oreilles qui existent depuis... Mathieu, tu vois, depuis combien d'années? Pas longtemps?
Depuis le tout début, dira-t-on.
Voilà. Non, peut-être pas depuis le début, début, mais ça doit faire au moins 6-7 saisons.
Oui. Bon, ensuite, il y a une émission qui s'appelle Folie douce sur les enjeux de santé mentale. Les émissions de Marie Lalande, le Marie raconte,
oui,
qui
pour les enfants.
Faisant des livres,
exact,
pour les enfants.
Parce que Canal M, c'est l'essence de Canal M, c'est d'avoir rendu l'écrit audible.
Oui.
Les gens pensent, quand les gens me demandent où est-ce que tu travailles, puis je dis Canal M, pour faire simple, là, je dis M comme Montréal, pour être sûr qu'ils m'ont compris. Mais après ça, il faut que j'ajoute M comme magnétothèque.
Parce que c'est
ça à l'origine.
Les gens s'appellent de la magnétothèque.
Voilà.
Ça s'appelle maintenant Vues et Voix. Donc, on a toute une belle programmation. Puis, évidemment, là, vivement les femmes avec Marjorie Théodore, qui est aussi notre PDG par la même occasion, qui fait ça. Coué Bonjour avec Alexis Wawanulowat, puis Robert Blondin. Robert Blondin, qui est, oui, le Robert Blondin de la radio de Radio-Canada, les gens qui se souviennent, là, qui est une légende de la radio. Et puis Alexis, évidemment, qui est un avocat engagé très, très fort dans la communauté.
Il y a Afrique-Caraïbe.
Afrique-Caraïbe, Images et mots à voix haute aussi. Porte-parole, Jean-Marie Lapointe.
Ça, c'est spécial quand même.
Oui, ça, c'est vraiment, vraiment un beau succès. Écoute, Jean-Marie fait des entrevues, tout le monde connaît Jean-Marie Lapointe. Là. Jean-Marie fait des entrevues avec des vedettes.
Des vedettes, des gens
ça,
qui ont
stars,
une notoriété.
Marina Orsini, Penelope McQuaid, ces gens-là qui viennent ici. Puis qui parlent pas de. Ils font pas de promotion de leurs activités, de leur lancement, tout ça. Ils parlent de ce qui leur tient à cœur sur le plan humain, là. Comment leur engagement dans des causes, là. Pourquoi ils sont engagés là-dedans. Puis ça donne des discussions, écoute, qui sont absolument fascinantes. Ça aussi, c'est sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est très, très regardé. L'émission avec. Sophie Grégoire a atteint un sommet de
vie. Ah, ben oui, tout à fait.
Il y avait une question de timing, tu sais, des pauses
premières. Des fois, ça compte. On a le droit d'être chanceux.
Puis on fait notre chance aussi un peu. Alors, Jean-Marie, on est très, très fiers qu'il soit joint
avec nous. Oui, puis de l'autre côté de ces personnes connues qui épousent des causes, ben il y a les causes elles-mêmes. Puis on rencontre ces héros anonymes-là avec Daniel Lantaigne.
Oui, oui. Ça, j'ai appris quelque chose, moi, avec Daniel, en fait, c'est que il travaille dans sa job de jour, comme on dit, Daniel, et il travaille
en philanthropie.
Puis la quantité de gens dans notre province là, de Québec là, qui sont engagés socialement dans des organismes communautaires, c'est phénoménal. Puis on se rend compte, dans le fond, que imagine que tout le secteur communautaire disparaisse là, au Québec. Là. Écoute, la société s'effondre.
Ça ne marcherait plus.
Le système de santé, le système social, ça repose là-dessus.
Le communautaire est pris tellement pour acquis. Comme quoi, ben, ça va toujours exister, puis ils n'ont pas besoin de grand-chose, puis ils font du bien, que en grande partie, l'État et les différentes instances de l'État, que ce soit fédéral, Québec, municipalité, ainsi de suite, se déchargent d'une partie importante de leur responsabilité sur le communautaire. Mais en même temps, le communautaire n'a pas beaucoup d'aide ou de soutien.
Non, écoute, heureusement qu'ils sont habitués de faire avec peu parce qu'ils n'ont rien.
Alors, ouais, tu sais,
je te dirais
fait.
Que c'est vraiment... Je suis très content du titre, là, les héros anonymes, parce que c'est vraiment des héros. Écoute, les gens, les heures que les Québécois consacrent à faire du bénévolat ou de l'engagement avec des salaires.
Des moyens minimes.
Quelque chose de très touchant là-dedans. Puis c'est une société qui est... C'est très beau, en fait, de voir ça. Puis en même temps, c'est un peu inquiétant parce que tu dis, écoute, notre système de santé repose là-dessus de plus en plus. Puis...
Le filet social et dans des moments comme en ce moment où on a une crise du logement, où l'inflation augmente, tout l'aspect communautaire de soutien, souvent de première ligne, généralement de première ligne, ben ça, c'est ténu. Hein? Et puis, c'est comme le communautaire est un peu abusé par le reste du système parce qu'on sait qu'ils vont le faire. Puis
je pense que oui.
C'est du bon monde. Hein? Ben
c'est
voilà,
du bon monde. Mais moi, j'ai quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête. Écoute, je le dis comme je le pense, c'est qu'une société aussi riche que la nôtre, parce qu'on a beau regarder ça n'importe quel bord, on est une société très riche là, par rapport à l'ensemble de la planète, là, très, très riche. Une société aussi riche que la nôtre, très aussi mal, ces gens les plus mal pris, c'est quelque chose qui ne manque pas dans la tête.
Puis chaque semaine, à 100 détours, on en parle un peu, puis des fois, il y a des lueurs d'espoir, puis des fois, il y a des sujets de frustration, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Philippe, d'avoir fait le tour. Ça donne le goût d'écouter Canal M. Hein?
Ben oui, j'espère.
Voilà. Et il faut se souvenir que ce n'est pas juste immédiatement en direct, soit par la câble, mais ça peut aussi être par... le site web et le canal YouTube. Comme ça, ben, on a accès à toutes sortes d'archives au sujet qui nous...
En balado sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, et ainsi de suite.
Voilà. Puis on peut aller chercher les sujets qui nous tiennent à cœur. Ben, merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui dis merci, François.
Bonne saison.
Merci, Mathieu.
Ah, que c'était joli. Alessandro Sgobbio. Ça s'écrit S-G-O-2-B-I-O. Si vous aimez ça, allez voir. Alessandro Sgobbio est un jeune pianiste de jazz italien qui vient de sortir des albums qui ont retenu l'attention. On vient d'écouter une pièce qui s'appelle Feuilles. Feuilles comme les feuilles mortes de tout à l'heure, là. Feuilles. Mais c'est vraiment bien. Voilà, on a découvert ça en week-end. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Elsa Lavigne, directrice générale d'Altergo. Bonjour, Mme Lavigne.
Bonjour.
Le collectif Accessibilité universelle a frappé un grand coup avec une campagne publicitaire choc. Et c'est vrai. C'est la campagne publicitaire qui a commencé à la télévision il y a quoi, 10 jours?
Oui, à peu près, depuis le 4 septembre.
D'accord, exact. Peut-être nous décrire un peu de quoi l'annonce a l'air, parce que pour nos auditeurs handicapés visuels, là, une publicité à la TV, ce n'est pas un sujet qui est à prime abord évident, mais qu'est-ce qu'on voit sur l'image?
Effectivement, mais ce qu'on voit sur l'image, en fait, on voit une succession de différents établissements, donc des commerces, une garderie, un cabinet d'avocats, un parc, et à chacun en fait de ces endroits, il y a un écriteau qui dit « ici nous ne servons pas les personnes aveugles » ou « ici nous refusons les autistes » ou « pas de personnes ayant une déficience motrice », etc. Ou alors des pictogrammes qui indiquent « interdit aux fauteuils roulants », »,« interdit aux femmes enceintes » ou « aux personnes qui sont blessées ». Et à la fin, l'annonceur vient nous dire « ne pas penser à l'accessibilité universelle, c'est comme refuser de servir le tiers de la population québécoise ». Et l'accessibilité universelle, c'est juste du gros bon sens.
Boum! Ça frappe, c'est ça.
Voilà. Effectivement, c'est l'objectif de la campagne.
Parce que pour avoir eu l'occasion de voir la pub à la télé, c'est vrai qu'au début, c'est un peu intriguant. Puis on voit toutes ces affiches. Mais il n'y a pas vraiment de musique ou de son, là. C'est assez simple. Et les gens qui peuvent voir constatent de quoi il s'agit. Là, on s'aperçoit que c'est un leitmotiv. Là, les gens sont exclus ici ou là, ainsi de suite. Puis c'est le 30%, là, c'est le tiers de la population qui est exclue. Puis ça, c'est le chiffre qui frappe l'imagination.
Effectivement, oui, parce que c'est sûr que dans ce tiers des Québécois, il n'y a pas que les personnes qui sont handicapées selon la loi, mais on va y retrouver toutes les personnes qui sont blessées ou qui rencontrent des obstacles liés au vieillissement, etc. Donc finalement, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que ça concerne vraiment une très grande partie de la population, l'accessibilité, et que les obstacles qu'on voit dans l'environnement, en fait, sont majeurs pour beaucoup de gens.
Et souvent, c'est ça, parce que dans notre entourage, chacun de nous, on connaît quelqu'un pour qui, parfois, juste inviter pour aller au restaurant, c'est un problème.
Exactement. Exactement. Les enjeux rencontrés par les gens sont beaucoup plus répandus que ce qu'on s'imagine. Et une des raisons aussi pourquoi on ne voit pas les personnes dans la publicité, c'est que nous, on voulait mettre la charge de l'enjeu sur l'environnement, que ce soit un environnement physique, politique, des communications, des programmes, mais pas sur les caractéristiques individuelles des personnes, parce que souvent, quand on parle d'accessibilité, on va voir l'archétype de la personne en fauteuil roulant, mais nous, c'est pas ça qu'on voulait montrer. Ce qu'on voulait montrer, c'est que finalement, c'est à tous les acteurs de la société civile de penser à ça, parce qu'en n'y pensant pas, ils excluent sans s'en rendre compte, ouais. Et que finalement, chaque geste compte. Là. Ce n'est pas qu'une histoire de grand concept, l'accessibilité, c'est une histoire aussi de petits gestes dans le quotidien des individus et des organisations.
Et oui, en fait, c'est comme un miroir, parce que dans la pub, on voit personne. Il y a personne qui marche dans la rue, il y a personne qui occupe ces lieux qui sont inaccessibles à une partie de la population. C'est comme si c'était une ville déserte, où il n'y a plus d'humains. Alors, c'est ça qui est vraiment frappant. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un pan de la société là, qui est exclu. Puis en fait, c'est comme la société elle-même là, qui disparaît. Cette publicité-là, elle tourne à la télé.
Oui, elle tourne sur RDS et sur Nouveau, donc comme je le disais, depuis le 4 septembre jusqu'au 1er octobre, et aussi sur les réseaux sociaux.
D'accord. Et c'est sûr que RDS puis Nouveau, c'est pas nécessairement les mêmes publics. On peut penser que dans ce sens-là, ça va avoir une portée importante. Est-ce que vous avez eu des échos? Avez-vous entendu parler de gens qui... Est-ce que ça leur rejoint déjà? Parce que quand on parle d'accessibilité du collectif AU, peut-être que la personne qui est frappée par la pub, à la toute fin, quand c'est marqué collectif AU, là, ils disent, c'est qui ça, AU?
Oui, effectivement. Mais dans notre entourage proche de l'organisation, on a effectivement des amis, des connaissances qui nous ont dit qu'au début, ils n'étaient pas trop sûrs de quoi il en retournait. Parce que comme vous le disiez, la publicité commence très doucement. On ne sait pas trop. Il faut un peu regarder plus précisément pour comprendre qu'on parle d'exclusion. Donc ça soulève des questionnements, effectivement. Mais nous, l'objectif de cette campagne, en fait, c'est vraiment de faire une campagne de notoriété de l'accessibilité universelle. D'accord. Parce qu'en 2021, on avait fait un sondage avec Léger. Et ce qu'on avait appris, c'est que auprès de la population québécoise, c'est seulement 10% des Québécois avaient entendu parler d'accessibilité universelle. Donc quand on compare ça aux 30% de la population qui rencontre des obstacles, on se dit que c'est finalement, même les personnes qui sont concernées ne connaissent pas ce terme. Et comme nos élus, nos décideurs sont à l'écoute des besoins de la population, si la population ne connaît pas l'accessibilité universelle, nos élus ne feront pas davantage.
Ben, c'est ça, ça, cette pression sociale. Le concept d'accessibilité universelle ne fera pas partie du discours public, surtout si dans les conversations impromptues que les décideurs ont avec leurs commettants, si personne ne mentionne jamais le sujet, parce que personne ne sait que ça existe.
Hein, on pouvait penser.
Tout à fait. Alors là, c'est une question de faire, en pub, on dit du branding, là. C'est peut-être pas le bon terme, mais en fait, c'est de rendre le mot accessibilité universelle, de l'introduire dans le langage.
Exactement.
Donc, de voir.
Je pense que ça, parce que c'est vrai que sur une publicité de 30 secondes, on ne peut pas non plus passer des tonnes de messages. Donc, nous, on a vraiment axé sur ça. Donc, faire en sorte que les gens connaissent ce terme-là. Et quand ce sera le cas, là, on pourra les outiller davantage sur maintenant, comment on fait pour poser des actions.
Ben, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que Collectif AU?
Alors, le collectif Accessibilité universelle, en fait, c'est un projet collaboratif qui réunit une trentaine d'organismes pour faire la promotion de l'accessibilité universelle à l'échelle du Grand Montréal. Donc, on a justement deux cibles principales qui sont le grand public, qu'on va toucher avec ce type de campagne-là, et les décideurs, particulièrement les élus municipaux, mais ça peut être aussi des décideurs d'autres organisations privées ou publiques.
Qui eux, ben, eux et elles, ces gens-là, évidemment, ont un mot à dire sur l'aménagement des lieux. Et ça, c'est primordial. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que vous allez utiliser le même thème sous d'autres formes, publicité écrite ou autre chose dans les médias? Est-ce que vous allez retaper sur le clou?
Certainement, donc c'est l'objectif. À court terme, on n'a pas nécessairement d'action prévue en termes grand public, mais on va développer des outils de transfert de connaissances, des outils de sensibilisation. On va aussi essayer de réunir les acteurs de différents milieux pour avoir des tables rondes, pour les sensibiliser à ces questions. Et après, vous savez, c'est toujours une question de financement. Hein, quand on veut faire des campagnes grand public, ça coûte très cher. Donc pour l'instant, on n'a pas les ressources, mais on compte bien les trouver.
Parce que ce qui est important, c'est que si les gens en entendent parler pendant un mois, c'est sûr qu'après ça, il faut qu'on leur rappelle le sujet. Mais j'ai trouvé très juste le fait que vous ne mettiez pas personne, à l'écran. Hein? L'accessibilité, ça fait que beaucoup de gens, quand on dit au public en général, selon les définitions, là, que ce soit 18, 20 ou 25% de la population qui vit en situation de handicap, les gens s'aperçoivent, on n'en voit jamais. Ah, voilà. C'est pas parce qu'on ne nous voit pas qu'on n'existe pas. Hein? Et cette publicité-là, dans ce sens, est très juste. Bunka, B-U-N-K-A, qui est l'agence qui a créé la publicité, est-ce qu'ils étaient déjà au fait ou il a fallu leur expliquer le message ou ça a été une bonne collaboration?
Ah ben c'est une très bonne collaboration. C'est une organisation avec laquelle on travaille depuis 10 ans maintenant.
Oh,
ça fait notre 10e anniversaire. Donc, c'est sûr qu'ils ont l'habitude de travailler avec nous. Puis, au fur et à mesure, on les a sensibilisés. Donc, on voit aussi comment travailler avec différents partenaires peut avoir un effet, là, sans que l'objectif principal ce soit de les sensibiliser. Mais eux, maintenant, la question là, de la représentation des personnes qui ont une limitation puis de l'accessibilité universelle, c'est quelque chose qu'ils comprennent très bien et qu'ils utilisent aussi dans le cadre de leurs autres partenariats et de leurs autres travaux.
Oui, et qu'ils le comprennent très bien, ça se sent tout à fait dans cette pub. Ceux qui ne l'ont pas vu, écoutez-la, regardez-la ou faites-vous la décrire en détail. Mais Madame Lavigne, merci beaucoup. Et on souhaite entendre parler d'accessibilité universelle tous les jours, partout.
Merci à vous. Bonne journée.
Sans détour avec François Beauregard.
De retour, 13h, c'est l'heure de la revue de presse avec Élisane Pellerin. Élisane, bonjour.
Bonjour.
On a fait le tour du monde, virgule, encore une fois, puis il s'en passe des choses.
Oui, il se passe beaucoup de choses à l'international, donc, cette semaine. On commence avec United, une compagnie américaine, donc, qui a annoncé avoir équipé une douzaine d'avions de marquage en braille pour les rangées individuelles, les numéros de siège, ainsi qu'à l'extérieur et à l'intérieur des toilettes, et voudrait continuer pour équiper sa flotte principale d'ici 2026. Si on a déjà vu ça, là, pour les consignes dans les livrets de consignes,
c'est vrai.
D'autres avions, de d'autres compagnies d'aviation. C'est la première fois, par contre, au niveau des numéros de siège et des toilettes qu'on peut voir du braille.
Oui. Et ça, c'est précieux parce que on salue United de cette initiative parce que moi, quand on me dit mon siège, c'est le numéro 12, ben là, il faut que j'agrippe 11 dossiers pour me dire que ça doit être le 12e.
Oui, tu comptes ça dans ta tête, puis tu espères ne pas te tromper, effectivement.
Oui, de sauter un siège ou de compter deux fois, puis si quelqu'un me parle, bien, il faut recommencer, mais on ne peut pas recommencer. L'autre chose aussi, c'est dans les toilettes d'avion, hein, c'est plein de gadgets.
Oui.
Hein, il y a l'eau qu'il ne faut pas boire, puis il y a le savon, puis où sont les bonnes serviettes, puis les pas bonnes serviettes, puis qu'est-ce qu'il faut faire où. Une fois, j'étais dans un train, en Suède. Et puis, j'étais sûr que c'était la chasse d'eau de la toilette du train, mais c'était non, c'était le système d'urgence.
Oh!
Oui, voilà. Alors, un, j'ai pas tiré la chaîne, comme on dit, mais deux, j'ai fait arrêter le train.
Oh, quand même!
Sonner les cloches. Et puis là, rapidement, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, savoir si j'étais encore de ce monde-là. Il me parlait juste en suédois, c'était assez gênant.
Oh, quand même!
Ouais,
okay.
C'est quand même
difficile d'expliquer à ce moment-là.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne signalétique.
Effectivement, c'est une base que les gens qui n'ont pas de problème de vision ne pensent pas, mais effectivement, pour des gens qui ont des problèmes de vision, c'est quand même très intéressant pour l'autonomie.
Alors, je m'excuse de ce petit détour en Suède, là, mais...
Moi, je trouvais ça très amusant.
moi, je trouve ça amusant aujourd'hui quand j'en parle, mais sur le coup,
c'était moins amusant.
C'est autre chose. On retourne en France.
On retourne en France parce que la Cour des comptes a fait un rapport qui a été rendu public, comme quoi l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap âgées de plus de 50 ans constitue un grand phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et que la France n'est pas prête au niveau des services à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap qui sont vieillissantes.
Oui, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a le vieillissement de la population.
Oui.
Et en même temps, ce qui fait que les personnes déjà en situation de handicap vieillissent, mais il y a aussi des personnes qui, à cause de leur âge, développent des limitations dans
effectivement. Le temps. Et le fait que les personnes en situation de handicap, maintenant, grâce aux programmes médicaux, entre autres, vivent plus longtemps, ça met une pression sur les services publics français et on peut croire dans différents autres pays. Et la Cour des comptes dit que on n'est pas prêt à ça en France et qu'il va falloir réagir et adopter les services parce que on ne sera pas capable de répondre à la demande qui va être de plus en plus grandissante.
Parce que selon la Cour des comptes, pour faire une explication simple, c'est un peu comme le vérificateur général au Canada. C'est l'organisme attaché au gouvernement français qui voit la bonne marche des politiques et à ce que l'argent soit dépensé de la bonne manière. 90% des personnes en situation de handicap vieillissante vivent dans un domicile autonome et sont pour la plupart non accompagnées. Alors, il y a vraiment un besoin... criant d'aide à domicile. Ça, c'est on peut pas tout institutionnaliser tous ces gens-là, bien que ce serait la solution simple et
c'est la solution simple, mais en même temps, ça coûte cher aussi, l'institutionnalisation.
Ouais,
donc,
ça coûte cher, puis c'est pas plaisant.
C'est pas plaisant non plus pour ces gens-là. Effectivement, là, on parle de 9,7 millions de personnes atteintes de limitations motrices, en plus de 3,5 millions de problèmes donc intellectuels ou cognitifs. Il faut aussi penser à ces gens-là hein, qui ont aussi des besoins particuliers qu'il va falloir prendre en compte. Donc, on parle quand même d'une bonne partie de la population française qui va avoir des besoins qui vont aller en augmentant avec les années qui passent.
Et comme vous le dites, ben si c'est le reflet de la situation en France, on peut penser que c'est partout la même chose dans les autres sociétés où il y a un vieillissement de la population. Déjà, en France, on identifie qu'il y a 120 000 places ou 120 000 services d'aide à domicile qui manque dans leur offre de services.
Oui.
Et ça, évidemment, ce déficit de 120 000 services à domicile, on peut croire que ça va juste aller en augmentant dans le temps. On parle aussi, toujours en France, de la représentation des personnes avec un handicap à la télévision.
Oui, on y voit quand même avec une bonne nouvelle. Donc, pour la première fois, la proportion des personnes en situation d'handicap a atteint 1% de représentation à la télévision en 2022. 1%, c'est très peu.
Oui, on peut dire « whoopee ».
Oui, voilà. 1%, c'est très peu, mais ça reste une bonne nouvelle parce qu'on a atteint 1%, c'est déjà un début. Par contre, effectivement, on parle du baromètre de la représentation de la société française qui a été publié par l'autorité publique française de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Par contre, c'est sûr qu'on parle vraiment ici des handicaps qui sont visibles, hein, bien oui. sûr. Donc, on parle d'un pourcent d'handicaps visibles. Effectivement, il y a des handicaps non visibles qui restent quand même très peu connus à la télévision et qui restent très peu représentés.
Et parce que 1, c'est un chiffre peut-être, c'est mieux que 0.8.
Oui, voilà.
Mais le nombre de personnes en situation de handicap de 15 ans et plus en France est estimé à 13% dans les handicaps visibles.
Oui.
Donc, il faudrait ultimement que la représentation des personnes en situation de handicap soit pas de 1, mais de 13%. Puis en plus qu'on inclut les gens qui ont un handicap qui n'est pas... Et comme c'est souvent le cas aussi... ces représentations des personnes en situation de handicap sont plutôt dans les émissions de type dramatique, hein, où c'est un des personnages ou une des personnages de l'émission qui est en situation d'handicap, et beaucoup moins dans les nouvelles ou dans l'actualité ou dans les choses plus...
Dans des programmes de divertissement, effectivement.
Oui, aussi.
On parle de seulement 5% dans des programmes de divertissement. Donc, du 1%, que je m'explique bien, hein, donc du 1%, oui. Il y a seulement 5% qui sont dans des programmes de divertissement, 12% dans des programmes d'information et 71% dans des fictions. Donc, effectivement, on est capable de mettre en scène des personnages avec des situations de handicap, mais quand c'est le temps de mettre d'avoir la vraie vie... On est encore oui. assez peu présent au niveau de la télévision française.
Et oui, la vraie vie, puis aussi le talent réel.
Oui, effectivement. Exactement, parce il y a le talent réel, effectivement.
Ça. Là, évidemment, on faudrait creuser encore plus loin sur qui joue le rôle du personnage handicapé. Hein,
mais ça... Oui, mais bon, ça, on pourra en parler la semaine prochaine, François.
Oui, oui, tout à fait, parce que ça, c'est comme un autre... tout un autre département.
Un autre débat,
oui. Oui, un autre débat, tout à fait. En France, toujours, on parle de gynécologie.
Oui, on parle de gynécologie. Donc, on parle de anti-gynéco, qui est une nouvelle démarche qui a été mise en place dans les établissements médico-sociaux de l'Île-de-France pour favoriser l'accès aux soins gynécologiques pour des femmes en situation de handicap. Et les femmes en situation de handicap, donc, étaient à 66% n'avaient pas de suivi régulier. Au niveau gynécologique, donc ça causait un problème, bien sûr, au niveau de la santé. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée de anti-gynéco, qui était de mettre sur pied quelque chose qui était beaucoup plus accessible pour les personnes en situation d'handicap, pour les femmes en situation d'handicap, et qui comprennent beaucoup mieux également les besoins et les particularités de ces femmes-là.
Parce qu'on parle là d'une formation... auxquelles vont participer les étudiantes sages-femmes pour voir... Et je me souviens ici, à Sans Détour, il y a peut-être un an, on avait vu un peu la situation au Québec où il y avait presque des refus tout simplement de traiter en gynécologie des femmes en situation d'handicap parce que on n'avait pas les bons équipements ou la table d'examen n'était pas adaptée. Et il y avait vraiment, je dirais, un vide dans la prestation de service, là. Et en fait, puis des fois, ça semblait être plutôt toutes sortes d'excuses juste pour ne pas se donner la peine de le faire de ce côté-là. Et c'était vraiment malheureux à entendre. C'est bien de voir qu'au moins en France, ben là, il y a une... C'est une initiative qui voit combler ce besoin-là.
Et on parle aussi donc de femmes du trouble du spectre de l'autisme parce que ces femmes-là donc peuvent vivre différentes enjeux par rapport à, aux soins gynécologiques qui sont pas particulièrement confortables ni particulièrement accueillants. Donc, on peut s'imaginer que pour quelqu'un qui est atteint du spectre de l'autisme, il peut avoir des défis supplémentaires au niveau des soins qu'elle va recevoir. Et on parle aussi que 9 femmes en situation de trouble du spectre de l'autisme, 9 femmes sur 10 sont victimes de violences intrafamiliales ou institutionnelles.
Exact. Et je dirais, c'est déjà démontré que les femmes en situation d'handicap, tout handicap confondu, sont beaucoup plus sujettes à des abus dans leur milieu ou autrement. Alors, de ne pas en plus avoir accès à des services gynécologiques, c'est encore pire.
Oui, effectivement. Ces femmes-là ont besoin, forcément, s'il y a violence dans leur entourage ou violence dans des institutions, ils ont besoin de médecins et de personnes qui sont aptes à les recevoir et à les aider. Donc, c'est quand même une bonne, un bon projet pour la France qui va encore pallier à un manque au niveau français. Et comme vous le disiez, François, on aurait besoin de ce type de projets ici au Canada, au Québec, exact. Et probablement dans beaucoup d'autres pays.
Oui, exactement. Je pense que c'est comme... Enfin, c'est toujours bien de voir une initiative positive parce que le chantier est vaste. La présidente du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique française vient de faire le pont avec le domaine de l'agriculture.
Oui, elle vient de signer une nouvelle entente, donc une convention qui va donner une nouvelle impulsion au recrutement, à l'inclusion et au maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap, parce qu'en agriculture, on a besoin d'employés et que les personnes en situation de handicap, ils ont encore vraiment des portes à ouvrir. Ils sont stigmatisés au niveau de l'agriculture et donc cette nouvelle entente-là veut favoriser non seulement l'accessibilité à l'emploi, donc être capable d'engager des gens qui sont en situation de handicap, mais aussi de maintenir au travail des gens dont la situation de handicap peut dégénérer ou peut avoir de nouveaux besoins avec les années. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable de s'adapter aux gens pour ne pas pour qu'ils aient en fait le moins d'impact possible. Si l'handicap évolue ou si un handicap venait à arriver dans la vie de quelqu'un.
Oui, parce que ça peut venir suite à un accident de travail ou simplement, on parlait du vieillissement ou des maladies dégénératives qui peuvent ne pas poser de problème au début, mais qui finissent par en poser. En Bretagne, entre autres, c'est intéressant parce qu'on dirait que en même temps qu'il est question d'une politique nationale en France, on voit des initiatives d'intégration au domaine agricole des personnes en situation de handicap, particulièrement en Bretagne.
Oui, ben un peu dans la même idée. En fait, on a besoin d'employés, on a besoin de maintenir au travail ces employés-là. Et on dit le sujet, le handicap est encore un sujet très bon dans le milieu agricole parce que le milieu agricole, c'est un milieu qu'on reconnaît comme étant physique. Donc, on pense systématiquement qu'une personne qui est en situation de handicap ne peut pas faire ce travail-là. Ce qui est faux parce que des fois, il y a toutes sortes
de travaux qui ne sont pas si physiques que ça.
Qui peuvent demander des outils et des adaptations qui sont relativement mineures pour que la personne puisse faire son travail adéquatement et rester sur le marché de l'emploi plutôt que d'en être exclu et à ce moment-là tomber sur des aides d'urgence, par exemple.
Oui, puis surtout, on peut penser dans un milieu rural où il y a encore souvent des situations d'isolement, ainsi de suite, la participation au milieu du travail, c'est bon pour favoriser
le social de ces gens-là, puis effectivement éviter l'isolement. Et l'isolement est effectivement en lien avec la maladie mentale et avec l'appauvrissement des maladies donc physiques. Oui. Donc, quelqu'un qui n'est pas correctement socialisé va avoir plus de problèmes au niveau physique et plus de problèmes au niveau psychologique.
Exact.
Parce qu'il manque de socialisation. Donc, le fait de les garder au travail, non seulement donne des employés au milieu agricole qui en a bien besoin, mais va aussi pallier à différents soins qui pourraient avoir lieu suite à une déclinaison de la santé de ces gens-là.
Et parce qu'au final, ça revient toujours à la charge de la société de prendre soin de gens qui pourraient ne pas être dans cette situation-là si, au départ, ils avaient été mieux entourés.
Il faut éviter au mieux et prévenir, parce qu'effectivement, malheureusement, ces personnes-là, au bout de la ligne, coûtent cher à la société, mais de faire des ajustements et de mieux prévenir pour les garder sur le milieu du travail et éviter tous les problèmes qui vont s'en suivre si on les sort du marché. À ce moment-là, ça peut coûter beaucoup moins cher, voire très peu, et être assez simple au final.
Tout à fait. C'est une sorte de prévention sociétale, on va dire ça comme ça.
Et agricole.
Et agricole, oui. Alors, toujours en Bretagne, il y a des initiatives dans le domaine de l'aviation où on voit l'accessibilité des aéroports régionaux. On ne pense pas à ça, là, mais ça fait partie aussi de l'adaptation au transport. On en parlait tout à l'heure avec United. Il y a des façons de changer le regard que les gens portent dans les aéroports en Bretagne. Donc, il y a eu une campagne à ce sujet-là. On a l'impression qu'en Bretagne, en tout cas, les choses bougent.
Oui, effectivement, hein? La Bretagne qui sont assez avancées, du moins cette semaine. Donc, EDIS, qui est gérant d'aéroports de Lorient, Bretagne Sud, qui s'engage sur un fonds sur 3 ans en soutien au projet innovant porté par le Centre multiaïste de Kerpop. Le Centre multiaïste de Kerpop, qui est un centre social pour les personnes en situation d'handicap. Donc, EDIS qui veulent mettre de l'avant la santé sur 16 aéroports. Ils veulent agir aussi pour des projets innovants pour améliorer l'accessibilité aux soins et l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, comme on parlait tout à l'heure, François. Et donc, on a pour objectif de faciliter le développement des activités du Centre Kerpop et en particulier des actions en matière de financement pour avoir une meilleure visibilité pour les personnes en situation de handicap et changer, vous l'avez dit, le regard qu'on porte sur ces gens-là.
Tout à fait. Et c'est curieux, moi, en tout cas, de mémoire, ce n'est pas la première fois qu'on parle de la Bretagne dans des efforts d'inclusion. On va revenir après la pause, puis on va se parler de ce qui se passe ici. We'll be right back. Ah, de retour. Ben, Élisane, maintenant, on se retrouve chez nous. Puis, il y avait des articles intéressants, entre autres, sur qui mettaient en question tout le programme, tout le filet social au Québec destiné aux personnes en situation d'handicap ou en situation, je dirais, socio-économique faible.
Oui, donc on remet en question le plan de lutte à la pauvreté du gouvernement du Québec parce que il serait donc mal adapté.
Ficelé.
Oui, mal adapté à la réalité actuelle des personnes en situation de pauvreté d'une part, mais aussi des personnes en situation de handicap parce que ils font quand même partie malheureusement de des personnes en situation de pauvreté. À cause, entre autres, du manque d'insertion au niveau de l'emploi, pour ne nommer que ça.
Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été annoncées, il n'y a pas, je pense, ça fait l'automne dernier, on parlait du nouveau programme de revenus de base qui misait sur une approche plus flexible, mais il y a encore des obstacles, si je peux dire.
Oui, mais en fait, il y a un revenu de base qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins, donc à la mesure du panier de consommation, donc MPC, qui est indicateur officiel du seuil de pauvreté au Canada. Donc, on parle que, par exemple, l'aide sociale couvrirait seulement 47% de cette mesure-là. Donc, on pourrait, avec cette mesure-là, avoir seulement 47%
De ce qui est considéré comme étant le strict minimum.
Oui, voilà, merci. Donc, effectivement, ça ne couvre qu'à 47% du strict minimum, comme vous dites, François, au niveau des besoins de base, donc d'épicerie, de logement. Même chose, donc, au niveau du revenu de solidarité sociale, on parle de 69% qui serait couvert et on parle du revenu de base de 86%. Donc, c'est un peu mieux, mais on a quand même presque 15% du strict minimum qui ne peut pas être atteint avec ce revenu-là. Et donc, on garde les gens en situation de pauvreté avec ce type de plan social qui n'est pas adapté à la réalité actuelle, particulièrement alors que les choses coûtent de plus en plus cher, on
tout
le sait.
Tout à fait. Oui, et encore, la mesure du panier de consommation, ça, c'est une façon de définir le seuil de la pauvreté. L'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, a créé un autre indice qui s'appelle le revenu viable, qui est un peu plus exigeant, la barre est un peu plus haute. Et si on compare les programmes d'aide sociale, de solidarité ou de revenus de base, là, ben, c'est encore pire parce que ces montants-là se retrouvent à 35, 50 % 64 % seulement de ce qui est nécessaire. Alors, tous ces programmes-là n'atteignent pas la cible de sortir les gens de la pauvreté.
Effectivement, garde les gens en situation de pauvreté. Et on a un autre problème, c'est au niveau des critères d'admissibilité de ces programmes-là. Donc, on parle du programme de base qui est très difficile à entrer. Il faut avoir des contraintes sévères à l'emploi, mais encore faut-il être capable de savoir ce que sont des contraintes sévères à l'emploi. Et on a quand même des définitions qui sont très limitatives et qui ne permettent pas donc à beaucoup de gens qui en auraient besoin d'accéder à ce programme-là d'aide de base.
Et souvent, les définitions sont liées à des contraintes permanentes, alors que beaucoup de gens se retrouvent finalement à avoir des contraintes qui peuvent durer quelques années, sont temporaires, mais qu'il faut placer en contexte, où souvent il y a une accumulation de faits qui crée une limitation. Mais le formulaire est trop succinct, est trop noir et blanc, si je peux dire, ce qui fait que l'admissibilité à ces programmes-là et simplement inatteignable.
Et on reproche aussi d'être trop médical, entre guillemets, si vous me permettez. D'ailleurs, tu sais, où justement, on oublie toutes les questions psychosociales au niveau, par exemple, des personnes qui ont des difficultés qui ont besoin d'aide psychologique, par exemple, donc qui sont souvent plus à moyen terme qu'à long terme ou qui sont pas des conditions à vie. Mais qu'ils auraient besoin d'aide à ce niveau-là et qu'ils ne peuvent pas y accéder parce que, comme vous le dites, François, le formulaire n'est pas fait pour répondre à ce type de besoin-là. Et quand on n'a pas un diagnostic qui est extrêmement précis et qui est à vie, on ne peut pas nécessairement atteindre ce programme-là dont on aurait besoin, ce qui fait que, finalement, on se retrouve à être pris dans une situation de pauvreté à long terme.
Et enfin, toute cette conversation-là vient justement du site Conversation. C'est un papier de Scott White sur ce site-là qui s'attaque, qui s'adresse, à, qui touche des enjeux, si je peux dire, socio-économiques. Cela dit, on voit qu'à Winnipeg, ils ont là aussi, ils ont des enjeux d'accessibilité au transport.
À Winnipeg, effectivement, on a des enjeux d'accessibilité, donc on demande à être plus ferme sur les lois. La consultante au cabinet, Rosalie Best, a demandé donc à avoir des lois canadiennes sur l'accessibilité qui sont plus sévères et donc à être capable de demander aux différentes municipalités et aux services des différentes municipalités de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.
Ben voilà, ça c'est au Manitoba. On voit que partout dans le monde, les choses sont un peu semblables. C'est pour ça que ça fait du bien de faire le tour, de se dire, ben c'est un combat que partout on mène. Élisane Pellerin, merci. Mathieu Tessier à la régie. Claire Séguin à la recherche tout azimut. Et Claire Guérin. Et voilà, à la semaine prochaine. Merci.